Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 23h en temps universel, 2h à Damas, le journal. Et c'est avec vous Antoine Galen. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la Syrie. Mohamed Al-Jolani, le nouvel homme fort du pays, a nommé des anciens rebelles à la tête de l'armée syrienne. Mais des djihadistes étrangers sont également de la partie, vous l'entendrez. La Russie et l'Ukraine annoncent l'échange de 300 prisonniers. Détail à venir de notre correspondante à Kiev, Emmanuel Chaz. Et puis à Mayotte, rétablissement de l'eau, de l'électricité, fin des bidonvilles, aide aux entreprises. Voici les principales mesures du plan Mayotte debout, présenté par François Bayrou après sa visite sur l'archipel. Mais la société civile n'est pas tout à fait convaincue. Vous avez les titres, bienvenue. En Syrie, le nouveau pouvoir multiplie les nominations. Un premier organigramme de la future armée syrienne a été divulgué. Sans surprise, on y retrouve des membres du groupe des groupes armés rebelles, puisque leur dissolution a été annoncée afin de les fondre dans une armée nationale. Mais la liste des combattants promus officiers compte aussi des djihadistes étrangers, Nicolas Falaise.
C'est une liste de 49 noms de rebelles promus officiers par le nouveau pouvoir syrien. Cet organigramme encore embryonnaire compte essentiellement des ressortissants syriens, mais également 6 djihadistes étrangers au moins, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui a notamment identifié un Albanais, un Jordanien, un Turc ou encore un Chinois de la minorité ouïghour. Le nouveau pouvoir syrien risque donc de devoir justifier ses choix auprès des pays d'origine de ces djihadistes, comme l'explique le chercheur Thomas Pierret, spécialiste de la Syrie.
Une fois que de tels personnages se voient confier des responsabilités importantes dans une armée nationale, je dirais qu'ils devront sans doute laisser de côté l'agenda politique qu'ils pouvaient avoir pour leur pays d'origine. Ils vont devoir, je pense, se plier à la raison d'État syrienne. Je pense par exemple, dans le cas de la Chine, je pense qu'il sera dans l'intérêt du nouveau pouvoir syrien d'avoir de bonnes relations avec la Chine pour des raisons diplomatiques et économiques. Il devra par conséquent exercer des pressions très fortes sur ses alliés d'origine chinoise pour abandonner toute velléité d'opérations terroristes, par exemple, contre la Chine.
Ex-combattants rebelles, syriens ou étrangers, ces premiers cadres de la future armée syrienne ont reçu des grades. La liste compte 2 généraux, 5 généraux de brigade et une quarantaine de colonels.
Et la Syrie où s'est rendu le chef de la diplomatie ukrainienne, il a demandé à Mohamed Al-Jolani l'élimination de la présence russe en Syrie. La Russie, alliée de poids de l'ancien régime de Bachar al-Assad, Moscou qui annonce un échange de 300 soldats russes et ukrainiens, conséquence d'une médiation des Émirats Arabes Unis. Précision à Kiev de notre correspondante Emmanuel Chaz.
Les photos de certains des 189 prisonniers de guerre ukrainiens revenus des prisons russes lors de ce dernier échange sont éloquentes. Les anciens détenus sont pâles et amaigris, mais aussi soulagés. Ils sont à bord d'un bus qui les ramène en Ukraine. Certains étaient en captivité depuis mai 2022, après avoir défendu Azovstal à Mariupol, l'île aux serpents dans la mer Noire ou encore le site de Tchernobyl. Ils sont maintenant libres, tandis que de son côté, la Russie a récupéré 150 soldats. Ces dernières semaines, des pourparlers entre les commissaires aux droits de l'homme ukrainiens et russes ont donné lieu à des accords sur le traitement des prisonniers ukrainiens qui jusqu'à présent n'avaient pas droit à recevoir des nouvelles ou des colis de leur famille. Le comité international de la Croix-Rouge affirme ne pas avoir accès au centre pénitentiaire russe, tandis que Kiev permet cet accès à ses propres prisons et se veut exemplaire dans le traitement des prisonniers de guerre russes qui, eux, peuvent envoyer et recevoir des lettres, travailler s'ils le souhaitent et manger à leur faim, tandis que les prisonniers ukrainiens qui réchappent aux prisons russes partagent des récits de torture quotidienne, un manque de nourriture et de soins, au mépris des conventions de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, presque 4000 prisonniers de guerre ont été libérés, notamment grâce à la médiation des Émirats Arabes Unis. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
En Géorgie, quelques heures seulement après son investiture dimanche, le nouveau président Mikhail Kavelachvili a promulgué des lois répressives contre les manifestants. Le régime au pouvoir fait face à une contestation d'une partie de la population qui dénonce le virage autoritaire du gouvernement. Hausse drastique du montant des amendes et plus de pouvoir pour la police. Ivan Chkonia est député d'opposition, membre de la coalition pour les changements. Elle dénonce des mesures illégitimes.
Ces lois comme ce gouvernement sont illégitimes et on les annulera quand on se débarrassera du pouvoir. Les amendes des manifestants vont payer le budget des criminels et des bandits au pouvoir. Ce n'est pas normal. Les élus d'opposition et la société civile rassemblent des informations sur les abus, sur les répressions et on les transmet à nos partenaires aux États-Unis et en Europe. Ça marche bien. Comme ça, ils prennent des sanctions rapides contre le régime. Je suis sûr et certain que ces sanctions vont se durcir encore et encore. Ça va être douloureux pour les membres du rêve géorgien, mais aussi pour ceux qui les soutiennent.
Des propos au micro de notre envoyé spécial à Tbilissi, Julien Chavanne, avec Irma Inaridze. RFI, 2h05 à Mamoudzou, Mayotte. Debout, c'est le nom du plan dévoilé par le Premier ministre François Bayrou pour reconstruire l'archipel après le passage du cyclone Chido. Avec 5 ministres, il dit vouloir rebâtir Mayotte en 2 ans tout en empêchant la reconstruction des bidonvilles. Mais il ne semble pas avoir convaincu une population meurtrie par le passage du cyclone. Lola Fourmi.
Croisée à la sortie, la députée Estelle Youssoufa semble déçue. Elle refuse de se prononcer sur un document dont elle n'a pas encore reçu tout le détail. Mais surtout, les habitants n'ont cessé de me demander toute la journée. Mais les ministres sont-ils allés voir les sinistrés, visiter les quartiers dévastés, les toilettes sans eau ? La réponse est non. Une visite finalement plutôt à distance de la population, ce qui a provoqué la colère. La colère notamment de ce collectif de citoyens de Mayotte 2018 présent devant le conseil départemental cet après-midi. Sa présidente, Safina Soula, n'a été reçue que par un conseiller, insuffisant selon elle et ses soutiens. Elles l'ont dénoncé de manière plutôt véhémente. Écoutez.
Le problème, c'est que lorsque le ministre est arrivé avec la délégation ministérielle, il les a demandés et on les a vus justement en train de lui demander de ne pas se rapprocher de la population, de ne pas les saluer. Et pour les mamans, c'est manque de respect. On ne sait même pas de quelle annonce il s'agit puisque logiquement, maintenant, les ministres sont partis. Ils auraient dû se rapprocher de la population pour leur expliquer ce qui a été discuté au moins. Et ça a mis vraiment la colère.
Qui se sent donc un peu à l'écart. Après ce bilan en demi-teinte pour la population, il reste maintenant 3 jours à Manuel Valls, ministre des Outre-mer, pour tenter de changer la donne.
Un reportage de Lola Fourmi. François Bayrou a quitté l'archipel en fin de journée, direction La Réunion. Et puis eux sont à Beyrouth. Sébastien Lecornu et Jean-Noël Barrot, les ministres français des armées et des affaires étrangères. Ils ont rencontré le commandant en chef de l'armée libanaise, Joseph Aoun, et passeront le nouvel an avec les militaires français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, qui se dit préoccupée par la poursuite des destructions menées par l'armée israélienne dans le sud du Liban malgré la trêve. L'Organisation mondiale de la santé a redemandé à la Chine de partager ses informations sur l'origine du Covid-19. Sans transparence, le monde ne peut pas se préparer aux futures épidémies, souligne l'OMS. La transparence chinoise remise en question car l'OMS lui reproche d'avoir dissimulé ses données 5 ans après la pandémie qui a tué plus de 7 millions de personnes à travers le monde. En 2024, le changement climatique a entraîné des conditions météorologiques extrêmes. C'est le bilan dressé ce lundi par l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU. Le secrétaire général des Nations Unies exhorte le monde à abandonner le chemin vers la ruine, car Pauline Glaise, au-delà des bilans humains, ces catastrophes ont un coût.
Le podium des catastrophes les plus chères est entièrement nord-américain. L'ouragan Milton, qui a frappé la Floride en octobre, a provoqué pour 60 milliards de dollars de dégâts. Hélène, qui l'a précédé de quelques semaines aux États-Unis, au Mexique et à Cuba, a coûté 55 milliards de dollars. Et sur l'ensemble de l'année, il faut compter 60 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis pour d'autres tempêtes. Inondations en Chine et au Brésil, typhon Yagi en Asie du Sud-Est ou encore inondations en Europe. Les autres catastrophes ont coûté entre 4 et 15 milliards de dollars au minimum, car ces données ne prennent en considération que les biens assurés. Cela explique en partie que les pays développés soient les plus représentés dans ce classement. Mais Christian Haid rappelle que des événements météorologiques extrêmes ont aussi touché de plein fouet des millions de personnes dans des pays plus pauvres. Alors cela ne veut pas dire que sans réchauffement climatique lié aux activités humaines, il n'y aurait eu aucun dégât. Mais des études menées pour plusieurs catastrophes montrent qu'elles ont été plus probables et plus intenses à cause du réchauffement climatique.
Un peu de sport avant de fermer ce journal en football. 3e défaite de suite en Première Ligue pour Manchester United qui s'incline face à Newcastle 2-0. Les joueurs de Ruben Amorim sont 14e du championnat. De son côté, Chelsea manque de réalisme et perd 2-0 face à Ipswich, malgré 76% de possession. Et puis dans le Vendée Globe, cette course autour du monde à la voile, Charlie Dalin est repassé devant Johan Richaume. Mais les deux skippers restent au coude à coude dans la remontée de l'Atlantique. C'est bientôt la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir écouté. Bonne suite des programmes à l'écoute de RFI.